Merci. Bonjour à tous. Merci à tous, frères et sœurs, pour cette super louange et pour votre accueil. Comme l'a dit Sylvie, je m'appelle Arthur. Je suis marié à Nelly et nous sommes les parents de Ethan et Elia. On va bientôt voir en direct. Donc voilà. Vous pouvez voir en photo mon épouse Nelly. Ethan en haut à gauche et notre fille Elia. On les verra un peu mieux à la fin. Pour le prochain diapo, nous sommes membres de l'Assemblée du Cèdre à Nyon et nous cheminons avec Frontières depuis 2019 dans une formation qui a à cœur de partager l'évangile au peuple lointain, au peuple musulman précisément. Alors, il y a maintenant 6 ans, lors d'un voyage en Afrique, infirmier à Djibouti, j'ai été confronté de plein fouet avec le peuple musulman. Avec des questions, parce que vous voyez, je porte la barbe, et que la première interrogation, c'est est-ce que tu vas à la mosquée? Et puis, je leur ai dit, ben non, désolé, je suis chrétien parce que vous n'avez pas encore reçu la formation Frontières. Ils ont beaucoup de questions sur les chrétiens, ils ont beaucoup de questions sur la foi, sur la spiritualité. Et en fait, en parallèle de ce temps, Nelly était à l'école de Startup Ministry. Et elle avait la visite de Frontières. Et moi qui avais des questions de la part des musulmans, elle commençait à avoir une part de réponse par Frontières. On s'est dit, tiens, c'est intéressant. C'est cette formation pour les musulmans, comment parler aux musulmans, parce qu'en fait, finalement, on n'avait jamais ressenti jusque-là. Et moi, j'étais confronté à la pratique et elle a recevait la théorie. Et en rentrant, on a commencé à s'intéresser. Et au fur et à mesure qu'on a prolongé cette formation, comment partager l'évangile, comment partager le message de la grâce aux musulmans, un souhait, une vision a été déposée sur nos cœurs. Parce qu'à Djibouti, il y avait énormément d'enfants des rues. Énormément d'enfants des rues qui étaient musulmans, ou qui avaient des parents musulmans, ou qui vivaient dans un contexte musulman. Et là, on s'est dit, on a à cœur l'humanitaire, je suis infirmier, elle est de formation assistante infirmière. Elle a fait de la théologie pratique. Et on a à cœur d'aider ces enfants des rues. Et on a à cœur de partager aux musulmans. Et là, dans la prière, on commence à recevoir un premier soin des enfants des rues. Et en 2022, on se rend sur le terrain. Et finalement, il y a beaucoup d'enfants des rues. Et beaucoup de femmes mineures, entre 12 et 16 ans, qui ont un enfant. Et là, on se dit, l'urgence, ce n'est pas seulement les enfants des rues, c'est ces jeunes mères mineures avec leur enfant. Et on remet ce sujet-là en prière. Et on reçoit une pleine paix, une pleine conviction que c'est ça notre cible. Alors qu'on avait d'autres projets en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus tropical, beaucoup plus chaleureux, avec des amis et des connaissances qu'on avait au Cameroun, en Côte d'Ivoire. On s'est dit, ces projets nous plaisent vraiment à 100%, mais on n'a pas la paix de Dieu. Et ça, on ne peut pas lutter contre. Et on reçoit la paix dans les bidonvilles de Djibouti, à un moment qui, humainement parlant, tous vos signes sont rouges. Dit qu'il y avait peur des chiens, il y avait des chiens errants partout. Moi qui avais peur en tant qu'infirmier, je voyais des enfants pieds nus avec des pieds aux pieds qui se baladaient en marchant dans les flaques, des égouts qui ruisselaient. Mais on arrive au bout de ces trucs-là, et l'un et l'autre, on se regarde, on dit j'ai la paix. Toi aussi, j'ai la paix. Alors, on remet encore ça en prière. Et on dit non, on a cette paix-là. Et donc, c'était en 2022, et pendant l'année qui a suivi, on a remis ce sujet-là à nos leaders, et on dit si tu as la paix, y aller. Et on est parti pour Djibouti. Mais avant d'aller à Djibouti, on a fait des escales. On a fait une escale d'abord de 6 mois en Afrique du Sud, puis de 1 mois au Bénin. Et ensuite, on est arrivé à Djibouti en 2024. Vous allez me dire, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi un voyage aussi long, qui a pris autant de temps? Mais je vous expliquer la cause. Premièrement, c'est que, étant d'origine française, vous pouvez savoir que les Français n'ont pas un très bon niveau d'anglais. Et j'avais vraiment besoin d'être formé à l'anglais, m'aider à un bon niveau, et pour travailler dans le monde des ONG, pour travailler dans le monde de l'humanitaire, pour travailler dans le monde de la mission, on a besoin d'avoir un bon niveau d'anglais. Et c'était primordial pour nous de nous former, et avec une partie de nos fonds propres, on a investi ces 6 mois en Afrique du Sud. Et ça a vraiment été un temps béni. Premièrement, on était dans une classe, alors là, on le voit pas trop dans cette partie de la classe, où on reçoit notre diplôme à la fin, mais on est arrivé. Pendant un temps, en fait, c'était des vacances scolaires aux Émirats arabes, et on se trouvait dans une classe avec que des musulmans. Donc, pendant 6 mois, on a appris l'anglais, Et on a commencé à tester un peu nos formations à frontières, à partager l'évangile avec les jeunes. Et il y a deux jeunes avec qui j'ai pu partager l'évangile qui ont une base de semences. Maintenant, je prie pour eux de temps en temps, j'échange. Mais on a eu un temps d'échange vraiment sur la parole qui était très fort et c'était un temps béni. Ensuite, on a fréquenté une église pendant ces 6 mois où on apprenait l'anglais. L'église Jubilee Church à Cape Town. Et dans cette église, il y avait une clinique privée qui avait été montée par une missionnaire de cette église. Et on peut voir en haut, c'est cette médecin-là qui est en train de prier pour cette petite fille. En haut, le staff avec qui on priait chaque matin avant de commencer les soins, on partageait un verset, les challenges personnels et les challenges également que rencontraient les patients, les réfugiés qu'on rencontrait. Parce que à Cape Town, il y a énormément de réfugiés qui viennent de la Zanzibar, qui viennent du Mozambique, qui viennent du Congo. Et du coup, nous, étant francophones, on peut plus échanger avec la population congolaise. Il faut savoir qu'à cause des conflits, il y a plus de 1 million de Congolais qui sont à Cape Town aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Ça représente presque un quart de la population aujourd'hui à Cape Town. Et pour le témoignage, cette petite fille qu'on voit en haut à gauche était anorexique parce qu'elle avait perdu des membres de sa famille. Elle arrivait dans un pays où elle ne parlait pas la langue. Et ça faisait 3 mois qu'elle mangeait du coton pour pouvoir perdre du poids parce que c'était trop gros, parce qu'elle ne voulait plus prendre du poids, ne voulait plus aller de l'avant. Et pendant ce temps, la médecin qui avait reçu déjà des stratégies pédagogiques lui demande quel est ton rêve. Quel est le rêve de ta vie? Qu'est-ce que Jésus a mis dans ta vie comme rêve que tu aimerais atteindre? Alors nous, on n'a pas su. Mais la médecin a su son rêve. Et elle a juste demandé à l'équipe qui était là à ce moment-là, quand on a pris la photo, qu'on prie tous pour que Jésus l'aide à réaliser son rêve. Et on a prié pour son rêve. Et le jour où on allait partir, la veille avant de partir, la médecin nous a envoyé un message en disant qu'elle avait repris du poids. Elle avait repris du poids à la vie. Et elle avait remis son rêve à Jésus et avait foi que son rêve allait se réaliser. Et pour nous, ça a été encourageant parce que ça nous a donné aussi des stratégies qu'on allait pouvoir prendre et amener plus tard à Djibouti. Et ça nous a donné également un style de vie missionnaire parce que c'est facile aussi d'avoir un style de vie quand on a un patron, quand on suit un employeur que chaque jour on se lève. Pour ma part, j'étais infirmier, donc j'avais travaillé dans les HUG. Je savais qu'à telle heure je devais pointer, faire ci, ça, ça, ça. Mais quand on arrive comme missionnaire, il y a un style de vie à prendre. Il y a un style de vie de prière à prendre. Et pendant ces mois, en Afrique du Sud, on a commencé à accepter notre changement d'identité. On a accepté de rentrer dans ce challenge-là et de vivre maintenant avec notre nouvel employeur, le Seigneur. Et vraiment, c'était un temps de formation qui était vraiment très bon pour nous et pour notre famille. Ensuite, on a passé un mois au Bénin avec Frontières Suisses. Pendant ce mois de challenge, on avait une formation de discipulat pour les personnes d'arrière-plan musulmans et animistes. Animistes, c'est quoi? Ce sont des populations qui croient encore dans les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des animaux. Et pour certaines populations là-bas, c'est surtout l'esprit du python, l'esprit du serpent. Ça veut dire que quand un enfant naît, on va égorger une vache, une chèvre, un poulet, pour que le sang paye le tribut de la vie à la terre ou à l'esprit de l'animal. Et c'est une culture qui est répandue partout. Même si certains sont devenus musulmans, ils mixent un peu des deux. Donc, ils vont faire les 5 prières pour l'islam, en direction de la Mecque, priant Allah et le prophète, mais en même temps, ils ont une peur que l'esprit de la terre leur demande le paiement, et s'ils ne l'ont pas payé, c'est lui qui rendra leurs enfants malades, c'est lui qui les rendra malades, et c'est lui qui bénira le champ, et c'est lui qui fera payer le prix aux voisins qui leur posent des problèmes. Donc, c'était vraiment très théorique chaque matin. On avait des temps de prière le matin en équipe, on avait des temps de prière avec la population locale qui était également en formation, et après on se rendait sur le terrain. Et comme vous voyez, cette dame-là, c'est un temps qu'on a vécu qui était très fort avec notre équipe. On va voir cette dame, on lui partage l'évangile, on nous avait expliqué une stratégie très simple à comprendre, à base de dessins sur la terre, on lui expliquait l'importance du sacrifice, l'importance aussi qu'il y avait eu le premier péché avec Adam et Ève, et le message de la grâce de Jésus. On fait ce message et elle dit, bon, moi, j'ai 75 ans et je n'arrive pas à marcher sans qu'on m'aide. Est-ce que Jésus peut m'aider à marcher? Est-ce qu'on lui pose la question, est-ce que tu le crois? Elle dit, ben, c'est ce que vous m'avez dit est vrai, je le crois. Et donc, avec l'équipe, on prie pour elle. Alors qu'on fait les deux personnes pour l'aider à marcher, elle se tient debout et elle arrive à marcher. Là, on dit, gloire à Dieu. elle a dit, est-ce que maintenant je peux avoir ce fameux baptême? On dit, oui, alors tu peux l'avoir. Donc le lendemain, on organise un temps de baptême et on arrive avec l'équipe. On se met à deux pour la mettre sur la moto. Il faut 10 minutes de moto pour atteindre la rivière, le Marigot, et elle reçoit son baptême. Il faut imaginer un visage totalement fermé, totalement bloqué. Au moment où elle rentre dans l'eau, on la baptise, elle sort de l'eau, son visage est relâché, elle se met à sourire, elle est remplie de joie, elle crie, elle chante, et elle dit, s'il vous plaît, rebaptisez-moi.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Mais bon, ça marche pas comme ça.
Rebaptise-moi, ça fait trop du bien.
On était avec notre responsable frontière, on dit, bon, rebaptise-la si ça lui fait du bien. On la rebaptise, et là, elle se met à sauter dans l'eau. Vous imaginez qu'il y a deux jours en arrière, elle ne marchait pas. Donc même nous, on était là, on dit, gloire à Dieu. Elle commence à sauter. Et là, elle dit, rebaptise-moi. On lui dit, ça marche pas comme ça. Elle dit, mais je suis encore un peu sec sur la tête. Il faut rebaptiser. Et là, notre responsable dit, bon, fais-le une dernière fois. On la rebaptise. On la rebaptise à ce moment-là. On prie pour elle. Elle sort de l'eau, on peut rentrer quelqu'un d'autre, on tourne la tête, elle n'est plus là. Elle est rentrée au village à pied pour dire à tout le monde qu'elle avait été baptisée, que Jésus l'avait guérie.
Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. C'était un temps, on est passé de la théorie à la pratique. Et même si on avait vécu des temps avec Mélie, des temps où on était en mission séparément, c'est la première fois qu'on le vivait non seulement en couple, mais en famille, et où en plus on voyait vraiment Dieu agir. Le voyage concrètement. Et puis, ce n'était pas nous qui agissons. C'était le Saint-Esprit. Et on était remplis de ça. Et on le vivait avec d'autres missionnaires. Et on a pu vivre aussi des temps avec nos enfants. Pour donner aussi un témoignage, pendant ce temps-là, on a vu notre enfant, Ethan, pendant ces temps de baptême, la semaine des temps de baptême, il y a eu énormément de cauchemars dans toutes les équipes. Pendant les nuits, il y a eu des cauchemars. Il y a eu, pour vous dire aussi, à un moment, des termites qui sont sortis de dessous des meubles où on logeait et qui ont commencé à envahir les couloirs. Puis on a commencé à prier contre ces choses qui se passaient. Et notre fils, pendant ce temps-là, a son œil qui se met à gonfler. Vraiment, l'œil à moitié fermé comme ça. Étant enfermé d'abord, j'ai primé sur le médical. On met de la glace, on rince l'œil. Et puis, on commence à prier les uns pour les autres. Un frère impose la main et son œil commence à se réouvrir instantanément. Et là, on s'est rendu compte vraiment de la puissance aussi du combat spirituel. Si on a conscience des miracles, il faut aussi avoir conscience de l'opposition spirituelle. Et là, on était vraiment dans ce cas pratique. Et on savait qu'on vivait ce temps-là, parce qu'après, on allait passer dans un autre temps où cette pratique-là n'allait pas pouvoir s'exprimer de la même manière à Djibouti. À Djibouti, on est arrivé en août 2024. Il faut savoir qu'avant de se rendre sur le terrain missionnaire, une des demandes de frontières d'après nous avoir formé, c'est de faire notre testament. Alors, ce n'est pas pour nous choquer, mais c'est pour nous faire prendre conscience. On a ce risque, en tant que missionnaire, de peut-être ne jamais revenir. Et de la même manière qu'on s'est engagé dans le mariage avec mon épouse, qu'on s'est formé, on est de toute façon, rien ne nous appartient, tout appartient au Seigneur. Donc on te remet ce baptême, on te remet ce projet, on te remet tous les besoins qu'on a en tant que famille, et on sait que tu vas pouvoir. Et c'est une réalité. On a des collègues qui sont arrivés sur le terrain, pour vous donner également un témoignage. Ils arrivent sur le terrain le mardi. Le vendredi, chez nous, c'est le jour de l'église, c'est le jour férié pour ce pays qui a une culture musulmane. À l'église, et eux venaient d'arriver le mardi. Ils prennent un taxi le vendredi pour aller à l'église, ils disent pose-nous en bas de la rue de Tel Aviv. Le taxi monte en haut de l'avenue, les pose devant l'église. Elle dit mais pourquoi vous faites ça? Il dit je sais que vous êtes chrétien, je sais que vous allez à l'église. Parce que là-bas, il y a énormément de surveillance policière. Donc tout ce qu'on fait est surveillé, tout ce qu'on peut dire sur les téléphones est surveillé, et donc on se doit d'être très prudent. Même si l'État sait qu'on est chrétien, on n'a pas le droit de prosélytisme, on n'a pas le droit de donner des bibles, de prier dans les rues. Par contre, si on nous challenge, si on nous interroge sur est-ce que vous êtes chrétien, on répond à ces questions-là. On a le droit de dire librement oui, nous sommes chrétiens, oui, nous sommes disciples de Jésus ou disciples de Israël al-Massih, mais on ne va jamais aller de manière ostentatoire prêcher l'évangile à quelqu'un dans la rue, sous peine d'être arrêté et d'être envoyé du pays. Donc, nous sommes arrivés sur le terrain, nous sommes directement intégrés à la communauté chrétienne. Et ensuite, avec l'ONG partenaire Live, avec qui nous travaillons en partenariat, et qui nous permet d'être surtout sur ce terrain-là, sans rien craindre. Parce qu'on ne peut pas arriver avec un statut missionnaire. travailleurs humanitaires qui nous permettent de pouvoir travailler sur le terrain en toute sécurité. Vous pouvez voir aussi nos collègues en bas avec qui nous allons prier dans les rues. Tous les premiers mardis du mois, nous nous rendons dans les rues de Djibouti et nous prions avec nos collègues. On ne va pas prier directement pour les gens, mais on prie dans les quartiers, dans les rues, on prie pour que des personnes soient disposées un jour à recevoir la parole de notre Seigneur. Ensuite, avec Nelly, nous participons avec l'ONG LIFE, donc Local Initiative for Education, nous participons aux activités de l'ONG. Parce que nous, on est arrivé un peu excité, tout flamme, on va commencer le projet. Et l'ONG nous a dit, calmez-vous, prenez votre temps, parce que d'expérience, on sait que quand vous voulez aller trop vite, vous allez vous emballer, vous allez faire un burn-out, et rien ne va aller. Et pour nous, c'était un peu dur en tant que jeunes, parce qu'on était vraiment excité. Ça fait maintenant 5 ans qu'on était sur le projet et qu'on voulait démarrer le projet. Et on a accepté. On a accepté parce que c'est nos leaders, on sait qu'ils ont l'expérience. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler en tant que traducteur pour le projet Foot de l'ONG. Nelly a travaillé aussi en tant que traductrice. Elle travaillait avec le projet de Couture des femmes et s'occupait en fait du marketing auprès des bases militaires françaises, américaines de Djibouti et des hôtels pour vendre la création du projet Couture des femmes. Le projet Couture des femmes, c'est apprendre à des femmes qui ne savent pas coudre à se servir d'une machine à coudre, faire des tissus, des sacs, des boubous qu'elles peuvent vendre ensuite soit aux femmes expatriées, soit sur le marché. Et ça leur permet d'avoir un revenu financier et de se sortir de la rue. Donc, on a commencé à faire ces projets-là. Et pendant ces projets, en fait, ça nous a permis vraiment de nous intégrer à la culture et au fonctionnement de la population. Ensuite, à partir de janvier, on a eu l'autorisation de l'ONG, parce qu'ils ont vu qu'on s'était bien adapté, à pouvoir rejoindre Caritas. Caritas s'occupe exclusivement des enfants de la rue. La journée, la nuit, ils ont gardé que certains cas d'urgence. Ils n'ont pas 10 places de cas d'urgence pour des jeunes femmes ou des enfants qui sont trop blessés. Sinon, ils n'ont pas le droit de les héberger pendant la nuit, de peur que ça encourage l'immigration de réfugiés sur le territoire djiboutien. Donc, le dimanche et le jeudi, la pouponnière est ouverte. Vous pouvez voir ces jolis petits bébés. Donc, on leur donne un bain, on leur donne des nouveaux vêtements, on leur donne des vêtements propres si jamais ils avaient laissé des vêtements sales la dernière fois qu'ils étaient venus. On leur donne des couches pour les jours à venir et on leur donne également du lait pour que les mamans puissent avoir du lait en poudre à leur donner quand il y en a. Les enfants, principalement des garçons, sont venus dès l'âge de 12-14 ans à Djibouti pour travailler, pour envoyer de l'argent à leur famille ou pour essayer d'avoir assez d'argent pour aller en Arabie Saoudite et travailler là-bas. Mais entre eux déjà, ils se tapent dessus parce qu'ils veulent se battre pour avoir des marchés, pour avoir des places, pour pouvoir réparer les chaussures, laver des voitures. Donc entre eux, ils se jettent des cailloux, ils se tapent dessus. Mais également, la police les renvoie. Ils les renvoient de manière très musclée en Éthiopie, en Érythrée ou en Somalie. Et donc, comme vous pouvez voir, ce garçon, il avait reçu des coups de couteau. Alors, on n'a jamais su qui lui avait vraiment donné parce que ça, il ne l'a jamais, c'était dur à savoir. Mais en ce moment, pour vous donner le contexte actuel de Djibouti, il y a tellement de réfugiés et d'Éthiopiens qui ont pris la place des Djiboutiens dans les milieux du travail de tous les jours, gardiennage de maison, lavage des voitures, entretien des maisons pour les femmes de ménage, que les Djiboutiens, en fait, veulent les mettre dehors. Et ils les mettent dehors par la force. Donc en ce moment, ils bloquent les quartiers entiers avec la police, ils font des rafles, ils les mettent dans les camions et les renvoient à la frontière. Et quand ils se rendent compte que la personne qu'ils ont mis à la porte la semaine passée est revenue, ils le passent à tabac, dans le meilleur des cas, ou pour certaines personnes, ils les passent à l'acide. Donc on s'est retrouvé avec des enfants qui avaient les mains brûlées à l'acide ou le dos brûlé à l'acide, en guise d'avertissement qu'il ne fallait pas qu'ils reviennent. Et c'est ce qui se passe actuellement maintenant depuis un mois à Djibouti. On n'entend pas parler dans les médias parce que ça reste quelque chose de secret et tabou au niveau de l'État, mais nous, on les constate au niveau de l'infirmerie de Caritas. Maintenant, je vais partager un petit témoignage de Alain, qui travaille à Caritas avec les enfants des rues et les mères des rues.
Donc voilà, comme l'expliquait Alain dans cette vidéo, il expliquait que les enfants, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de structure et sont là depuis plusieurs générations. Donc aujourd'hui, on s'occupe des 3e, 4e générations d'enfants des rues. Donc les mères sont arrivées, elles ont vu des enfants dans les rues de Djibouti, issus de viols de passeurs, de militaires, de prostitution. Leurs enfants subissent la même chose, leurs petits-enfants subissent la même chose, et leurs petits-petits-enfants subissent la même chose. Et l'étude de Caritas et de l'équipe d'Alain, c'est que pour enrayer ce système-là, la nécessité d'avoir un foyer est importante. Parce que ces filles-là, ayant eu un enfant, ne peuvent pas revenir dans leur pays. Parce qu'ils reviennent avec un enfant de la honte, un enfant du viol, un enfant de l'abus. Elles ne peuvent pas revenir dans ces conditions-là. Et puis en plus, elles reviennent sans argent. On les a envoyées chercher de l'argent et tu reviens sans argent avec un enfant à charge alors que la famille a déjà des problèmes. Pour elles, ce n'est pas possible. Mais la création d'un foyer, la création d'un foyer avec des personnes qui les accompagnent, qui les éduquent à s'occuper d'un enfant, de l'éduquer, de le laver, de l'amener à l'école. Caritas offre une école, comme le dit Alain dans sa vidéo, on ne l'entend pas forcément bien, mais ils offrent une école, une éducation, une alphabétisation pour leur apprendre un métier, apprendre l'électricité pour certains avec un partenariat avec l'Église, apprendre la couture pour les femmes, apprendre à vendre la nourriture sur le marché. Ils ont cette possibilité-là de formation et ça, c'est quelque chose que nous, on veut mettre en place. Donc, la création d'un foyer d'accueil de jour et de nuit, ce sera un lieu de sécurité pour une dizaine de mères avec leurs enfants, leur permettant déjà d'avoir un lieu où dormir, un lieu où elles peuvent poser leurs affaires, un lieu où pendant la nuit, elles ne risqueront pas de se faire agresser d'une manière ou d'une autre. Avec le partenariat de Caritas, eux ont l'expérience, eux ont les dossiers de ces filles-là, eux ont déjà des filles qui sont là, qui sont régulières, qui viennent laver le centre, qui participent à la vie du centre, et ils peuvent nous adresser des candidatures sûres et vraiment bien encadrées. Également, l'ONG qui sera avec nous, c'est Multiplying Up, qui accompagne pour les traumatismes psychologiques que ces filles ont pu subir. Quand vous avez traversé le désert pendant un mois et subi des diverses agressions physiques ou mentales, il y a besoin vraiment d'une reconstruction. Donc, cette ONG pourrait nous aider à travailler sur l'accompagnement psychologique et mental de ces jeunes filles et de leurs enfants. Mais également, notre ONG Life, eux, pourraient nous aider à équiper déjà le centre, donc nous fournir du matériel, car c'est aussi une de leurs responsabilités, et contacte différents organismes à travers le monde, récupère des dons, des moustiquaires, des lits, des chaussures, donc on pourrait déjà avoir une source d'équipement avec eux. Et avec d'autres ONG et également l'église locale, on pourrait former ces filles à un métier, les rendre autonomes financièrement et les aider à sortir de leur misère et de leur situation de femmes de rue et enfin arrêter cet héritage qu'elles ont en ce moment de vivre dans les rues, de vivre dans la maltraitance ici à Djibouti. Donc ça, je l'ai déjà parlé. Donc voilà. Voilà ce qu'on a fait depuis que nous sommes partis. Voilà ce que nous avons fait depuis un an et demi. Aujourd'hui, nous avons repéré suffisamment sur le terrain les circonstances. Nous nous sommes adaptés à la culture, à la situation locale, aux acteurs locaux avec qui nous allons travailler. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons cette possibilité d'ouvrir le centre. Ce dossier va être présenté à la rentrée prochaine avec l'accord de nos ONG avec qui nous allons travailler. Et nous allons pouvoir œuvrer avec eux pour pouvoir aller de l'avant. Et on espère avoir l'accord du gouvernement pour nous autoriser à ouvrir ce foyer de jour comme de nuit. Ce sera le premier du genre à Djibouti qui donnera cette sécurité de nuit aux femmes. Donc je vous remercie vraiment pour vos prières tout au long de cette mission. Merci pour vos soutiens parce qu'on ne se rend pas compte, mais des messages qu'on peut recevoir à certains moments en tant qu'ouvrier sur le terrain, ça peut tomber à pic à un moment où vous ne pensez pas. On a reçu des messages à des moments où c'était compliqué pour nous en tant que famille, en tant qu'ouvrier sur le terrain. Et des fois, on reçoit des messages d'encouragement qui tombent à pic pour un témoignage aussi. Au moment où nous nous sommes arrivés à Djibouti, on a fait tous les papiers pour les bourses scolaires des enfants. On avait tout préparé et le consulat dit « Non, non, parce que vous avez changé de pays, donc vous êtes français à l'étranger, mais plus d'Afrique du Sud. Vous êtes français à l'étranger de Djibouti. Pardon. Donc, il faut refaire tout votre dossier. » Et donc là, plus de bourses scolaires pour les enfants. Et on prend un temps de prière parce que là, on était complètement désemparés. Et on reçoit un email de votre église qui nous fait un don vraiment qui tombe à pic. Et on se dit qu'il ne tombe pas à pic pour rien. C'est vraiment le Seigneur qui répond à une prière. Et pour vous dire qu'il y a des attentions, des messages qui vous sont des fois semés dans votre cœur le matin ou dans votre esprit. Et ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour une personne de votre famille, c'est peut-être pour votre voisin, pour un collègue de boulot. Mais si le Seigneur vous a donné ça à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et nous, on a reçu plein de temps comme ça, où des fois, on avait besoin d'encouragement et on a reçu des paroles d'encouragement qui nous ont vraiment fait du bien. J'aimerais également vous partager ce verset de Jean 4, 36, 37. Celui qui moissonne reçoit un salaire et il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ici, ce qui est vrai, c'est ce que l'un sème, l'autre moissonne. Ce que nous, on a pu voir pendant l'Afrique du Sud, le Bénin, ou même nos premiers temps à Djibouti, c'est des choses qu'on partage avec vous parce que par votre soutien, par vos prières, vous rendez cela possible. Et on ne peut pas être sur le terrain si on n'a pas d'église derrière nous. On ne peut pas être sur le terrain s'il n'y a pas des gens qui prient pour nous. On ne peut pas être sur le terrain s'il n'y a pas des gens qui parlent de nous autour d'eux pour nous encourager et pour nous soutenir. Et donc, quand il y a une vie qui est gagnée, vous aussi, vous la gagnez avec nous. Ce n'est pas parce que nous, on est sur le terrain qu'on la gagne. Déjà, c'est le Saint-Esprit qui la gagne, mais on la gagne en famille, on la gagne en équipe, on la gagne en tant qu'enfant de Dieu, tous ensemble. Et dans cet esprit-là, j'aimerais vous partager également Jita, qui est d'origine somalienne, qui a grandi à Djibouti. Il a rencontré une missionnaire américaine et avec le peu d'anglais qu'il a, il a reçu le Seigneur il y a 5 ans. Il y a 2 ans, il a fait le baptême, mais en faisant le baptême, il a été rejeté de sa famille, de sa communauté, parce que tout le monde a su qu'il était chrétien. On l'a chassé de sa famille, il a vécu dans la rue pendant 1 an, et quand des membres de notre ONG qui parlent plus ou moins français ont eu conscience de ça, ils ont essayé de l'accompagner le mieux possible. Et quand nous, on arrive, ils ont dit « Ah, c'est super, tu parles français, tu vas pouvoir parler avec lui ». Et aujourd'hui, il se réjouit parce qu'on a des temps ensemble d'échange de la Bible, où il a pu enfin échanger son témoignage à un autre frère en Christ, en français, alors qu'il n'avait jamais eu l'occasion. Et là, il a vraiment à cœur de pouvoir le partager à d'autres personnes qui parlent français et de pouvoir même intégrer l'église locale chrétienne, chose qu'il n'a jamais fait avant de peur de la persécution et de peur de ne pas être compris également de la population chrétienne de Djibouti. Et donc, quand on a fait ça et qu'on a su qu'il était à la rue, avec l'ONG, on s'est mobilisé et on l'a aidé à louer une maison et qui était plus ou moins en ruine. Et donc là, vous pouvez voir sur la photo, on l'a aidé à construire le toit de sa maison. Et un autre frère en Christ, du coup, l'a rejoint dans cette maison. Et aujourd'hui, ils sont 2 jeunes Somaliens qui ont reçu Christ et qui vivent dans cette maison à Djibouti. Et ça aussi, ça montre que voilà, ça a été une semence d'une Américaine. C'est un collègue néerlandais qui l'a rencontré ensuite, qui l'a aidé à faire son baptême. Et aujourd'hui, ben, moi, je partageais ton prière avec lui. Donc, en fait, c'est ça aussi, il faut se rendre compte, la mission. C'est qu'il y a quelqu'un qui va retourner la terre, l'autre qui va semer la graine, l'autre qui va l'arroser, l'autre qui va moissonner. On ne sait pas à quel moment on va intervenir, mais on intervient tous dans cette moisson-là. On y participe tous, de près ou de loin. Et vraiment, merci parce que nous, on a pu vivre ça grâce à vous, mais c'est aussi vous qui le vivez à travers nous. Et vraiment, merci pour vos prières et vos encouragements. Merci. Après cette courte présentation, j'aimerais vous partager un message dont j'ai pris conscience en étant sur le terrain et dont nous avons pris conscience sur le terrain avec Nelly, mon épouse. Le fait d'être une nouvelle créature en Christ et d'avoir une nouvelle mission. J'ai pris conscience de ça déjà un peu avant de partir, mais... En étant sur le terrain, je suis vraiment rentré dans un espace nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ce verset, mais il a fallu un moment pour que ça fasse un déclic en moi. Je pense que ça a commencé à faire un déclic en moi quand j'ai commencé à assumer que j'étais chrétien dans les services où j'allais travailler en tant qu'infirmier, où j'ai assumé que je jeûnais, où j'ai assumé que certaines paroles, certains échanges, certaines phrases ne coïncidaient plus avec ma valeur, avec mon identité en Christ. Et en fait, là où ça m'a choqué, c'est que quand j'ai assumé ça, et ben en fait, au lieu de recevoir du rejet, d'abord, j'ai reçu des interrogations, et puis en fait, j'ai commencé à avoir des collègues qui elles-mêmes étaient chrétiennes et n'assumaient pas d'être chrétiennes. Et qui là se sont dit, mais toi aussi t'es chrétien? Ah, moi aussi. Mais comment tu vis ta foi? Et en fait, d'un seul coup, ça a fait un déclic en moi de me dire, mais en fait, on se cache, on n'assume pas, alors que notre devoir, c'est d'assumer qui nous sommes, c'est d'aussi partager ce message et de nous encourager les uns les autres. Mais c'est seulement en partant en mission que j'ai vécu une nouvelle saison vraiment intense dans mon identité en Christ. Ça fait maintenant un an et demi qu'on est sur le terrain. On a quitté notre famille, on a quitté nos amis, nos habitudes, ça a été un challenge, mais en passant par l'Afrique du Sud, le Bénin, on s'est rendu compte vraiment de notre identité en Christ. On s'est rendu compte aussi de la famille qu'on avait en Christ. Combien de fois on a rencontré des gens, c'est le plus fort en mission, c'est de rencontrer des gens à l'autre bout du monde, il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un que vous connaissez. On a croisé des gens en Afrique du Sud qui venaient du Cèdre. On a croisé des gens qui étaient passés par votre assemblée. Même avant de partir, j'ai soigné une patiente qui fréquentait votre assemblée. Et qui m'a dit, j'ai appris que tu partais en mission. Mais comment tu l'as su? Il dit, le monde est petit. Mais moi, ça m'a encouragé en me disant, en fait, notre monde est petit, mais en même temps, si on n'assume pas qui on est, bah, personne ne sait qui on est. Dire, les musulmans, c'est simple pour se reconnaître entre eux dans la rue. Ils ont un style vestimentaire, ils se bénissent au nom d'Allah. Mais nous, on est là, on a un peu peur, on est un peu craintif des fois d'assumer qui nous sommes. Mais finalement, en mission, on était là, on dit, bah, de toute façon, on est là, on n'a plus le choix. Et puis, si le Seigneur a permis ça, c'est que là, on doit complètement assumer. Et si ben, jamais on a des soucis, on doit rentrer, c'est que le Seigneur l'aura voulu. Et déjà, ça a un peu changé notre vision des choses en disant, maintenant, on va assumer à 100% et on va aller dedans. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous avons la grâce de vivre dans un pays en Suisse où on n'a pas de persécution, mais on a seulement nos peurs. Et rappelez-vous une chose, c'est que quand Israël était face aux Philistins, face à Goliath, pendant 40 jours et 40 nuits, est-ce que les Philistins ont attaqué? Est-ce que Goliath a attaqué alors que c'était un géant de 3 mètres, donc en un coup, il pouvait balayer je ne sais pas combien de soldats d'Israël? Non, mais ils ont seulement fait peur. La peur vient de l'ennemi. Mais l'ennemi lui-même sait qu'il ne pouvait pas approcher parce que Dieu était avec cette armée. Nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes des nouvelles créatures et nous sommes appelés à amener la vérité. La peur est un mensonge. La peur est une émotion. Et nous sommes appelés à dominer sur cette émotion. Vivre en mission, c'est vivre aussi avec une part d'inconnu, de nous exposer aux différences des autres et à nos propres différences à nous-mêmes. Nous sommes venus avec un rêve à Djibouti, ouvrir ce foyer pour les jeunes mères mineures dans les rues. Et les gens savent que nous sommes chrétiens. Et ils attendent de nous un certain comportement. Parce que dès du moment que tu dis que tu es chrétien, il faut savoir que dans ces pays-là, il y a un grand cliché. Oui, vous êtes chrétien, mais regarde Neymar, il est chrétien, il va en boîte de nuit, et puis il couche avec plein de filles. Ouais, mais il est chrétien, mais comme toi, tu peux être musulman, et forcément, tu n'es pas toujours un musulman 100% saint, on va dire, sans vouloir t'enfoncer. Il dit non, c'est vrai que tous les hommes font du péché. Je dis c'est vrai. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est pareil. Je veux dire, moi, je suis un disciple de Issa al-Almasi, de Jésus le Messie, parce que dire qu'on est chrétien, ça fait penser directement à colon, colonisation, croisade. Et c'est tout de suite ostentatoire. Donc je me présente à Djibouti dans un contexte musulman en tant que disciple d'Issa al-Almasi. Et comme je le dis, nous sommes des serviteurs. Des serviteurs de Dieu. Et personne n'est sans faute et sans péché, à part Issa al-Almasi, comme c'est indiqué dans le Coran. Et souvent, c'est des choses qu'eux n'ont pas conscience et qui leur fait un peu un tilt dans la tête. Mais t'as lu le Coran? Ben oui. Comme toi, tu peux lire la Bible parce que c'est marqué dans le Coran. Et ça, c'est des choses qu'eux, ils ignorent, mais ça les challenge un peu, des fois, ça leur fait du bien. Et quand vous faites ça, ce qui est vraiment beau à voir, c'est qu'il y a une interrogation dans leurs yeux. Parce que généralement, j'ai des sourates, donc je cite la sourate, et je dis, va vérifier, et si tu as une question, pose la question à ton imam, si ce que j'ai dit est faux, et si c'est faux, alors je m'excuse. Mais je pense que le Coran est un livre saint, comme le Coran dit que la Torah, l'Évangile sont des livres saints et que tu dois les questionner. Et c'est des choses où on s'aime et après on voit des musulmans, moi je l'ai vécu avec des joueurs de foot que j'accompagnais, qui sont arrivés à 5-6 pour me challenger, et après ils sont arrivés chacun leur tour un peu derrière pour commencer à poser des questions, et on voit que ça commence à aller travailler, et ça c'est beau parce que c'est pas nous qui faisons encore, c'est le Saint-Esprit, et ils commencent à avoir des questions, des interrogations, mais le Coran les renvoie à la Bible, ça c'est la plus belle des choses. Mais je vais être honnête avec vous, et aimer un pays, c'est simple, c'est beau, tout ça, il y a les palmiers, il y a la plage. Bon, il fait 40 degrés, donc ça, c'est pas forcément facile, mais aimer un peuple, surtout un peuple qui n'a pas la même culture que vous, qui, je le dis aussi, pardon si je vais choquer, mais qui n'a pas la même couleur que vous, il faut croire qu'en tant que blanc, on s'attend à ce que moi, je donne l'argent facilement, parce que je fais partie d'une ONG, parce que je suis chrétien, donc forcément. Et leur expliquer que non, je ne suis pas forcément ça. mais je suis un disciple de Issa. Donc, je vais te donner ce que moi j'ai. Je vais te donner de la patience, de l'amour et je vais essayer de comprendre ta culture. À Djibouti, c'est une culture où on observe beaucoup. On a des voisins, ils savent quand on rentre, ils savent quand on sort. L'autre fois, la voisine parle à Nelly, elle dit « Oui, mais l'autre jour, tu es sorti avec tant de sacs et tu es rentré avec tant de sacs. » Nelly, elle dit « Mais comment tu sais ?» Elle dit « Bah, je regarde par la fenêtre. » Donc, il s'interroge vraiment, mais on ne sait jamais si c'est de la bonne ou de la mauvaise curiosité. Et on sait qu'on a, entre guillemets, non seulement ce regard de la population, ce regard de l'État, et que ce qu'on fait est vraiment une source de questions. Qu'est-ce qu'on va amener ? Est-ce qu'on va amener de la bienveillance ? Est-ce qu'on va amener de la malveillance ? Et ça, ça les interroge, et ça, ça les challenge. Mais notre identité en Christ, c'est un enjeu pour nous. Et c'est là qu'on doit se rappeler que nous, on est là, et ce qu'on va faire, on ne va pas le faire avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec notre personne, mais on va le faire par l'Esprit Saint. Quand on a agi au Bénin, quand on a prié pour ces gens, quand on a reçu des prières, des fois, on a reçu des paroles de connaissance, on est arrivé vers une femme, on lui a dit « Excuse-moi, tu as un bandeau à la tête, est-ce que tu as une blessure dessous ?» Elle enlève son bandeau, elle a un abcès. Et là, quelqu'un d'autre dans l'équipe lui dit « Excuse-moi, ma sœur, est-ce que tu n'aurais pas un gris-gris dans ton ventre ?» La femme, elle dit non. Son mari a levé son t-shirt, il a pris un gris-gris, elle a dit « Oui, elle a un gris-gris. » On l'a dit « Si tu veux être guéri maintenant, brûle ton gris-gris. » Elle a dit « Mais si je fais ça, mes ancêtres ne vont plus me protéger. » Et là, on lui a dit « Mais est-ce que tu penses que Jésus peut te protéger ?» Et son mari lui a dit « Tu as le choix, ce n'est pas moi qui t'oblige. » Et on lui a parlé, on a prié pour elle. Elle a vraiment reçu une conviction, elle a brûlé son gris-gris et on a prié pour elle et au fur et à mesure des jours, son abcès s'est refermé. Ça faisait 2 ans qu'elle avait un abcès à la tête. C'était vraiment un miracle. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est la nouvelle créature qui a fait ça. C'est l'Esprit Saint qui est en nous qui a fait ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. S'il vous plaît, regardez la personne qui est à côté de vous ou derrière vous. Ou tu peux me regarder si tu Mais dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature en Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Et être une nouvelle créature, c'est pas seulement que ce verset, que ce magnifique slogan qu'on partage avec Paul, mais c'est aussi être avec chargé d'une responsabilité. On a une responsabilité. Nous sommes un courrier. Nous sommes une lettre vivante. On a un message à apporter à notre prochain, à notre voisin. Peut-être à quelqu'un de notre famille qui, des fois, même est en Christ, mais n'a même pas conscience qu'il est une nouvelle créature, qu'il a cette autorité. On a cette responsabilité de donner ce message à un frère, à une sœur. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as pas à avoir peur. Christ est à tes côtés. Et dans chaque combat, il va te donner la force et le caractère de dominer les esprits, de dominer les maladies, de dominer cette émotion qui, à ce moment-là, nous surcharge. Je veux dire, on est passé par toutes les émotions avant de partir. On s'est même posé la question d'abandonner parce que tout était au rouge. Mais Dieu a pourvu, Dieu a répondu à nos prières, nous a accompagnés. Et je pense qu'il vous accompagne tous. Je suis sûr que si on vous posait la question maintenant, vous avez tous un témoignage de ce mois qui vient de passer, de cette semaine qui vient de passer, où le Seigneur a agi pour vous. Et nous devons passer ce courrier, nous devons passer ce message de la grâce à notre voisin, à notre prochain, mais avec de l'amour, avec de l'attention. On voit des personnes, des fois, qui sont là, qui sont nos voisins. Bon, il est chrétien, chrétienne, est-ce que je peux lui parler ? Mais bien sûr qu'on doit lui parler. Bien sûr qu'on doit s'interroger à cette personne qu'on côtoie chaque jour. Comment tu vas ? Est-ce que tu es heureuse ? Tu es musulman ? Ah, c'est super ! J'aimerais en savoir plus sur ta foi. Parce que je ne pense pas que ce que j'entends à la télé, c'est vrai. Je ne pense pas que vous êtes tous des terroristes. Pardon, je choque, hein, mais c'est vrai. Ce qu'on entend à la télé aujourd'hui, que ce soit, pardon, en Suisse, en France, en Belgique, on voit des choses, mais il y en a qui le disent en ce moment. On est proche des années 1939. Il y a des discours en ce moment, ça fait peur. Parce que quelqu'un a une barbe, parce qu'une femme a un foulard, on pense qu'elle va se faire sauter. Mais c'est faux. Et imaginez, elle, de son côté, ce qu'elle pense. Elle est née dans un pays. Elle aime ce pays, elle aime ses voisins, et on la traite de danger, on la traite de parasite. Est-ce que vous pensez que cette personne n'a pas besoin d'amour ? Est-ce que vous pensez que cette personne n'a pas besoin de notre attention ? Est-ce que vous pensez que cette personne n'a pas besoin de Jésus dans sa vie ? n'a pas besoin de cette vérité. Cette vérité qui nous a tous fait du bien et qui nous rassemble ce matin dans cette assemblée et qui se rassemble dans d'autres assemblées en Suisse et dans le monde. Parfois, dans ces temps de mission, nous sommes challengés et on s'interroge. Quand tu ne comprends pas l'autre, comment tu réagis? Quand nous ne comprenons pas l'autre, comment nous allons réagir? Quand tu es incompris, que fais-tu? Que faisons-nous? Et quand tu es traité injustement, quelle est ta réponse? C'est des questions que nous, on a commencé à vivre en mission, parce que peut-être on ne les avait pas vécues ici, on les a vécues différemment. Mais les vivre au quotidien, les vivre quotidiennement, ça nous a challengés. Mais ce matin, je vous pose cette question-là, enfin, je vous pose ces trois questions-là, pardon, et méditez-les. Finalement, comment ça se passe pour vous de votre côté? Quand vous ne comprenez pas l'autre, quand vous ne comprenez pas cette personne qui se drogue, qui est rejetée, qui vit dans la rue, qui porte ce voile, qui se comporte de telle ou de telle manière, et quand vous essayez de lui parler, que vous êtes incompris, qu'est-ce que vous faites? Comment on peut agir? Ces questions sont devenues des miroirs pour nous sur le terrain. On les partage avec d'autres missionnaires qui ont ces mêmes challenges. Et vraiment, avoir des frères et sœurs avec qui en parler sur le terrain et même à l'extérieur du terrain, c'est important. Parce que finalement, si ces challenges en tant que chrétiens, on ne les partage pas, on les garde pour nous. Mais en parler, c'est déjà une solution. En parler, c'est déjà se dire, en posant cette question à toi, mon frère, ma sœur, même moi, je commence à trouver un semblant de réponse. Et cette réponse-là, c'est aussi dans la prière qu'on les trouve. C'est dans la prière qu'on se fortifie. C'est dans la prière qu'on s'interroge avec le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas cet homme. Comment je peux aller vers lui? Comment je peux lui parler? Eh bien déjà, tu as une première réponse. Va déjà vers lui. Va déjà lui parler. Interroge-toi. Et dans ta parole, Jésus n'est jamais allé manger dans les temples. Il n'est jamais allé vers ceux qui étaient dans le plus haut grade dans l'église, mais il est toujours allé vers ceux qui étaient rejetés. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les femmes adultères. C'est dans la prière qu'on a pu vivre des temps forts au Bénin. C'est dans la prière qu'on a pu vivre des temps forts, dans des temps même d'évangélisation, ici à Genève, où j'ai pu en vivre avec des membres de votre paroisse. C'est dans la prière qu'on se fortifie. C'est dans la prière qu'on fortifie notre nouvelle identité en Christ. L'Esprit Saint qui est en nous, on l'appelle dans ces temps de prière. On le recherche et il nous fait du bien. J'aimerais vous donner trois clés pour grandir avec Christ ce matin avant de conclure. Aimer. Aimer même quand c'est difficile. Aimer même quand on est rejeté. Aimer même quand on ne comprend pas. Et aimer même celui qui ne nous aime pas. Vous nous avez lancé un challenge au début de la formation. Et c'est vrai que des fois, je ne vais pas vous dire tout le temps parce que ce serait faux. Mais j'essaie de me le remettre en tête au moins une fois par an. C'est prier pendant un mois complet pour des personnes que je n'aime pas. Et c'est vrai, je dois vous dire que j'aime tout le monde, hein. Mais il y a des personnes, des fois, qui m'énervent, des personnes qui m'agacent, des personnes qui m'ont fait du mal par le passé, et que finalement, quand je commence à me poser la question, finalement, qui sait que j'aime pas et pourquoi je ne l'aime pas, commencer à prier pour cette personne-là. Mais aimer, c'est difficile. Et Jésus aimait tout le monde, même les gens qui l'ont persécuté. Les gens qui l'ont cloué à la croix, pardonne-leur. Vous avez envie de pardonner des gens qui vous ont fait du mal. C'est compliqué. Mais ça, c'est seulement l'Esprit Saint, la nouvelle créature en nous qui peut le faire. C'est pas nous, c'est pas nos émotions, c'est pas nos sentiments, mais c'est le Seigneur dans son Esprit Saint qui pourra nous aider à pardonner et à aimer. Et ça, c'est de l'obéissance. Obéir, même quand on ne comprend pas tout. Je veux dire que quand on a obéi à aller à Djibouti, on n'a pas compris. Tu n'as pas envie d'aller dans un pays où moi-même qui étais là-bas pendant mes 5 premières semaines, J'ai été blessé à la cuisse, je me suis retrouvé avec un abcès immense, une cicatrice qui part de là à là aujourd'hui. Je ne vais pas le montrer pour vous respecter. Mais tu pars là-bas avec deux enfants, c'est de l'obéissance. Et combien de fois on a dû obéir, je pense que tout le monde ici a dû au moins obéir une fois au Seigneur, à quelque chose qui nous semble invraisemblable. Financièrement, ça ne passe pas. Si je vais voir cette personne-là, il va me rejeter. Si je fais ça, c'est sûr qu'on va se moquer de moi. Mais on a obéi, et on a été surpris, et on a été béni, et la personne a été bénie. Obéir, aimer, ça va vous générer des choses, comme je partageais avec vos jeunes qui étaient super vendredi, quand on obéit, quand on agit, quand on aime, aimer quelqu'un, saluer quelqu'un, ça va sécréter de l'endorphine. Elle va sécréter de l'endorphine. Je vais sécréter de l'endorphine. Et les gens autour vont sécréter de l'endorphine. Ça, c'est biblique et c'est scientifique, c'est prouvé. Bénir quelqu'un, ça lui fait du bien. Et ça nous fait du bien et ça fait du bien aux gens qui sont autour de nous. Et c'est ça aussi notre identité en Christ. C'est aller vers l'autre et le bénir et l'aimer. Et encore une fois, prier. Prier quand on ne comprend pas. Pour rester enraciné et recevoir la force d'avancer. La force d'obéir. La force d'aimer. Dire des fois, c'est même dur de prier. Alors des fois, peut-être ce sera la louange. Mais la louange est aussi une forme de prière. Combien de fois je suis parti au travail ou à des événements chrétiens, et on s'est dit pourquoi je suis allé dedans, pourquoi je me suis engagé, et j'ai pas envie, et tous mes voyants sont rouges. Combien de fois, pour ma part, je me suis rendu à l'église, et j'avais envie de rester dans le lit. Mais à ces moments-là, la prière, la louange, nous permet de rentrer dans un état de bien-être. Et là, on se rend compte aussi à quel point le Saint-Esprit agit en nous. Peut-être ce matin, il y avait des frères et sœurs qui n'étaient pas trop chauds à aller venir à l'église. On a un peu commencé en retard. Mais la louange nous a fait du bien, non ? La louange nous a fait du bien ce matin ? La louange nous a fait du bien ce matin ? Amen. Amen. Dieu est puissant, Dieu est amour, Dieu nous aime. Et ces temps avec lui sont des temps vraiment à part. Ce sont des temps divins qu'on ne peut pas vivre avec d'autres musiques, on ne peut pas vivre avec d'autres temps de prière. Et ça, c'est aussi être une nouvelle créature. Frères et sœurs, avant de conclure, j'aimerais vraiment que vous puissiez, pendant cette semaine, aller manger à la GAP. Non, pendant cette semaine, vraiment, j'aimerais que vous repensiez à ce verset, que vous repensiez à ces trois clés, aimer, obéir et prier. Repensez que vous êtes une nouvelle créature. Repensez que vous êtes une bénédiction pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos voisins, pour ces personnes que vous côtoyez qui ne font pas toujours du bien, pour ces personnes qui ne vous comprennent pas et pour ces personnes que vous ne comprenez pas. Et qu'on puisse, dans ces prières-là, être un seul et même corps, compris pour toutes ces personnes qu'on côtoie au quotidien, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont été peut-être blessées dans des églises, qui ont peut-être été blessées par des frères et sœurs, parce que ça aussi, il y en a. Mais leur montrer que non, c'était un homme, c'était une femme, et lui-même était peut-être blessé. Mais Jésus t'aime, Jésus tient à toi, et Jésus a un message pour toi. Il te pardonne tes fautes et tes péchés. Malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu as fait, viens et sois toi aussi une nouvelle créature. On peut prier ensemble, s'il vous plaît, et j'aurai fini. Seigneur, merci pour cette nouvelle identité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais tu nous accompagnes par ton esprit. Nous te demandons de continuer à nous transformer, à nous rendre capables d'aimer, d'obéir, de prier. Apprends-nous à refléter ton amour chaque jour dans notre famille, dans notre quotidien, dans notre mission, dans notre ville, dans nos quartiers, dans notre pays, que ce soit en Suisse, à la frontière voisine ou là-bas à Djibouti. Et fais de nous des lettres vivantes, des messagers, des témoins fidèles dans ce monde qui a tant besoin de toi. Bénis mes frères et sœurs, aujourd'hui et éternellement, au nom puissant de Jésus. Amen.